Les séminaires du Collège de France.
Le premier conférencier de notre séminaire est Cédric Bonafé de l'Université de Montpellier. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, qui va parler des axiomes de Roubaix-Tresses sur les variétés de linguistique.
Merci bien. Tout d'abord, merci Bao Chao pour me faire l'honneur de m'inviter ici. Je suis très content de parler. Donc, je vais parler de travaux en commun donc avec Michel Brouet, Olivier Duda, Jean-Michel et Raphaël Rouquet. Une partie de l'exposé sera sur le beamer et une grande partie sera au tableau. Le beamer servira surtout à fixer les notations. Bon alors, on va commencer justement par fixer les notations et redéfinir ce que sont les variétés de Deligne loustique et les représentations unipotentes. Donc les notations sont assez classiques. Je vais partir d'un groupe réductif connexe sur une clôture algébrique d'un corps fini à P élément FP. Fixer un endomorphisme de Frobenius F. Et je vais noter par un B calligraphié l'ensemble des sous-groupes de Borel qui, évidemment, munit d'une structure de variété qu'on appelle la variété des drapeaux. Et je vais noter par W le groupe de Weyl de G. Et il est classique, connu, que le W est en bijection avec les orbites de G dans B croix B. Et j'utiliserai la notation suivante. Quand j'ai deux Borel, B et B', je dirais qu'ils sont en position W, donc si et seulement si BB' appartient à O de W. Voilà, c'est une notation un peu condensée et assez standard. Une fois que l'on a défini ceci, on peut définir l'ensemble S des réflexions simples de W. À travers cette bijection, ça correspond aux éléments de W, tels que la dimension de l'orbite correspondante est juste un petit peu plus grande que le minimal. Et ce sont des éléments d'ordre 2, et une fois que l'on a fixé l'ensemble des réflexions simples, on a une notion de longueur sur W. On va noter IF, c'est le graphe du Frobenius, donc qui envoie la variété des drapeaux à l'intérieur de deux copies de la variété des drapeaux. C'est une application qui est GF équivariante, elle n'est pas G équivariante. Et la variété de Deligne loustique, c'est simplement l'intersection, ou si vous préférez l'image inverse de l'orbite O de W dans B, ou si vous pouvez le voir comme l'intersection de O de W avec le graphe du Frobenius. Et une fois qu'on définit les variétés de Deligne loustique, évidemment elles sont munies d'une action du groupe fini GF. Et donc on peut regarder l'action du groupe GF sur la cohomologie LADIC de ces variétés. Alors je vais me placer dans un cas simple, c'est-à-dire on va travailler en caractéristique 0 sur un corps algébriquement clos. Donc on va regarder des représentations en sur le corps grand K qui est pas défini. Eh bien, grand K, c'est QL bar, hein, tout simplement. La représentation est dite unipotente si elle apparaît dans la cohomologie d'une variété de Deligne loustique. Je noterai par H point de X de W la somme directe, donc le GF module gradué, la somme directe des groupes de cohomologie de cette variété de Deligne loustique. Donc grand K, c'est QL bar. Où L est un nombre premier différent de P. Et on va noter unip de GF, l'ensemble des représentations irréductibles, où représentation au caractère, je passerai de l'un à l'autre de façon assez. Sans m'en apercevoir par moment, je pense. Donc pour du groupe GF, c'est un ensemble fini de représentations. Un ensemble normal fini, mais très très fini de représentations. Et j'expliquerai pourquoi je dis très très fini. Et une petite remarque, c'est que les représentations qui apparaissent dans la somme directe des cohomologies, c'est la même chose que les caractères qui apparaissent dans les sommes alternées des cohomologies, qui sont en général beaucoup plus faciles à calculer. Hein, le caractère virtuel donné par les sommes alternées, c'est beaucoup plus facile à calculer, tout comme la caractéristique de l'aire d'une variété est en général bien plus facile à calculer que tous ces nombres de Betti. Hein, c'est l'équivalent. Et en fait, de prendre vraiment les sommes directes ou les sommes alternées ne fait pas apparaître de nouvelles représentations de prendre les sommes directes. C'est un résultat qui n'est pas si facile que ça, mais qui est dû à de l'inloustique. Voilà, donc ça c'est le cadre, la définition des représentations unipotentes. Et juste pour des questions de pratique, pratiquement tout ce que je vais raconter est vrai en général. Mais ça, déjà, l'exposé sera peut-être un peu technique, et pour éviter d'en rajouter, je vais supposer que l'action du Frobenius sur le groupe de Weyl est triviale. Ça m'évitera de rentrer un peu plus dans certains détails techniques qui n'apportent vraiment rien. Alors, une fois qu'ont été définies les représentations unipotentes en 1976, il s'en est suivi énormément de travaux de Loustic, d'une densité incroyable entre 1976 et 1984, qui a abouti à une classification des représentations unipotentes, des représentations unipotentes irréductibles, avec le calcul explicite de leur dimension, ou leur degré si vous préférez, et aussi un résultat de généricité, j'expliquerai ce que j'entends par là juste après, un résultat de généricité. Non seulement il les a classifiés, mais il a construit tout un tas de partitions qui ont un sens algébrique ou géométrique, donc la partition en série de Harishchandra, en famille, avec le lien avec les cellules de Cajun Loustic. Il y a aussi la décomposition de ces sommes alternées, la décomposition des sommes alternées qui a été calculée explicitement. Et un point assez important, c'est que au cours de cette classification, Loustic a fait apparaître une action de SL2Z sur l'espace vectoriel engendré par les représentations unipotentes. Ça, c'est peut-être un des points essentiels du travail d'aujourd'hui. Donc, je vais essayer de réinterpréter cette action. Alors, cette action, elle encode plusieurs choses. Elle encode les valeurs propres du Frobenius sur la cohomologie des variétés de ligne Loustic. Elle encode la transformée de Fourier, qui est le passage des caractères unipotents au faisceau caractère. Elle encode aussi l'opérateur de torsion que je définirai. Et parmi les résultats de Loustic, il y a aussi une description, pas simplement de la somme alternée, mais vraiment de toute la cohomologie, dans le cas où W est un élément de Coxeter. Donc ça, c'est un article absolument magnifique dans lequel il décrit pour tous les groupes cette cohomologie-là. Bon, alors, j'ai mentionné deux choses que je veux détailler. Donc, la généricité. Qu'est-ce que j'entends par là? Et c'est lié à la phrase que j'ai dit. L'ensemble des représentations unipotentes est un ensemble très, très fini. C'est au sens que c'est un ensemble qui, en fait, ne dépend pas de Q. C'est-à-dire, il ne dépend que du groupe de Weyl. Donc, je vais l'écrire ainsi. C'est qu'il existe un ensemble que je vais appeler unip de W, qui n'est défini vraiment qu'en termes de W, et une application que je vais appeler dim, qui va de cet ensemble unip de W vers les polynômes à coefficient rationnel en une variable, que je vais appeler U. Et cet ensemble, il est tel que, en fait, si on se donne, quel que soit le couple GF comme ci-dessus, tel que W est le groupe de Weyl de G, quel que soit Q, peut-être que je devrais mettre aussi Q, enfin bon, non, Q est encodé dans F, alors on a une bijection naturelle entre cet ensemble fini, qu'on peut voir comme un ensemble de paramètres, mais qui ne dépend vraiment pas de Q, une bijection ici que je vais appeler ρ, qui envoie un paramètre lambda sur la représentation rho lambda, et tel que si je regarde la dimension de la représentation rho lambda, mais en fait c'est juste l'évaluation du polynôme dim de lambda en Q. Par exemple, en type B2, vous n'avez que 6 représentations unipotentes, d'accord ? Et 6, c'est un nombre très fini qui ne dépend pas de Q. Voilà, donc c'est ça que j'entends déjà par généricité. Tout comme Einstein a dit au début du XXe siècle que tout est relatif, Michel Bruy a dit à la fin du XXe siècle que tout est générique, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur des représentations, tout ce que l'on fait à l'intérieur de la théorie des représentations des unipotentes des groupes ne dépend en fait que de cet ensemble fini. Typiquement, la partition en théorie de Harishchandra, en série de Harishchandra, c'est quelque chose qui peut se lire uniquement sur cet ensemble fini. La partition en famille se lit aussi uniquement sur cet ensemble fini. Quoi que l'on fasse, même l'action de SL2Z, ça se lit sur cette donnée combinatoire qui ne dépend plus où Q ou le groupe ambiant a vraiment disparu. Voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, donc je voulais parler de l'action de SL2 et je vais l'énoncer de la façon suivante. Tout d'abord, j'ai un opérateur que j'appelle oméga. Alors c'est sur quoi? C'est sur l'espace vectoriel engendré par les caractères unipotents. d'EGF. D'accord ? C'est l'hypothèse. Oui, oui. Normalement, si je voulais avoir un résultat générique, il faudrait que je rajoute aussi l'action de F sur W. Voilà, cette hypothèse sera, comme je l'ai dit, elle sera en vigueur juste pour simplifier, éviter un peu de technicité. Bon, alors donc je vais définir un opérateur oméga sur les fonctions centrales engendrées par les caractères unipotents. Je vais le définir en disant que oméga de rho, ou rho c'est une représentation au caractère unipotent, c'est juste zeta rho fois rho, où zeta rho c'est une racine de l'unité, telle que les valeurs propres du Frobenius sur la composante rho isotypique de la cohomologie d'une variété de ligne élastique quelconque, donc ça sera vrai quel que soit i, quel que soit w, sont de la forme zeta rho fois q à la puissance quelque chose. Voilà, ça c'est un résultat de Lustig qui est quand même qui n'est pas facile. Hein, c'est que si vous regardez les valeurs propres de f sur un tel truc, quel que soit i, quel que soit w, là, vous aurez une puissance de q forcément, mais par contre le nombre algébrique qui apparaît devant, ça sera une racine de l'unité et qui ne dépend pas de l'endroit où vous trouvez votre représentation. Donc ça c'est un premier opérateur. Et le deuxième opérateur que je vais définir, c'est un opérateur qui envoie un élément g-1 f de g que je prends dans gf. Je prends un élément de gf, je l'écris de cette façon-là, c'est toujours possible grâce au théorème de Lang, et je l'envoie sur f de g, g-1. Le fait que ce gars-là soit gf stable implique que celui-ci est aussi gf stable. En revanche, l'application n'est pas tout à fait bien définie, puisqu'il y a plusieurs façons d'écrire un élément sous cette forme-là. En revanche, le résultat que j'obtiens ici, lui, dépend à conjugaison près. Donc ici, j'obtiens une bijection. Cette application-là induit une bijection au niveau des classes de conjugaison, et ça envoie une classe de conjugaison sur une classe de conjugaison du même cardinal. Et donc, comme j'ai une bijection entre classes de conjugaison, je récupère une isométrie sur les fonctions centrales, et cette isométrie se restreint à cet espace-là. Et la restriction de cette isométrie à cet espace-là, c'est ce que je vais appeler l'opérateur de torsion, je vais l'appeler SH. Donc ça définit un élément SH qui va de K unip, donc une isométrie, sur K unip de GF. Et un théorème de Lustig. Qui résulte de tous ces travaux sur la classification. Un théorème de Lustig dit que si vous regardez l'application qui envoie cette matrice-là sur oméga et celle-ci sur l'opérateur SH, donc deux opérateurs unitaires, eh bien ça se prolonge en une action de SL2 de Z. Donc les relations qui sont vérifiées par ces deux matrices en fait, sont vérifiés par les opérateurs SH et oméga. Donc se prolonge en une action de SL2 de Z, qui est le groupe engendré par ces deux éléments-là. Et forcément, ça se prolonge de façon unique, hein, puisque justement, ces éléments l'engendrent. Voilà. Donc ça, c'est un point assez surprenant de cette théorie. Et juste pour ceux qui savent, vous avez un élément particulier dans SL2 de Z qui est celui-ci. L'action qui correspond à cet élément, c'est la transformée de Fourier. Donc c'est l'application qui envoie une représentation unipotente sur le caractère unipotent, sur le faisceau caractère unipotent correspondant, transformation de Fourier. Voilà, donc ça c'est les deux choses que je voulais dire, définir, c'est la généricité et l'action de SL2 de Z. Et une partie de l'exposé sera d'essayer de donner une façon, disons, de revisiter un petit peu cette action de SL2 de Z. Alors, Bon, une question qui vient naturellement, c'est d'essayer de décomposer toutes les cohomologies de toutes les variétés de linoustic. On sait simplement décomposer les sommes alternées, hein, mais ça serait intéressant de connaître chaque groupe individuellement. Alors une question qui vient immédiatement après la question, c'est quand même pourquoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on voudrait ça? Est-ce que ça pourrait nous permettre d'obtenir plus d'informations que tout le travail de Loustic? Ça, c'est peut-être un peu prétentieux, donc je ne suis pas sûr qu'on arrive à ça, mais en revanche, une des raisons pour laquelle on s'est intéressé à ça, c'est que, notamment dans tous ces travaux, il y a beaucoup de preuves qui se font au cas par cas, de calculs qui sont extrêmement subtils, et peut-être qu'on peut essayer d'espérer de mieux comprendre ou de éventuellement donner juste une autre interprétation, et en particulier une autre interprétation de l'action de SL2-2Z. Donc ça, c'est un des points qui nous a motivés. Alors, donc voilà ce que l'on pense. Nous devons revisiter, éclairer la classification, peut-être classifier les représentations unipotentes d'une autre façon, et j'expliquerai un petit peu aussi pourquoi. Donc mieux comprendre l'action de SL2. Il y a des liens avec des conjectures, donc les conjectures de Brou et Malle-Michel, qui sont des conjectures qui ont à voir avec les représentations modulaires, les équivalences de catégories dérivées lorsqu'il y a des défauts abéliens, donc des choses qui viennent plutôt de la théorie des groupes finis abstraits, mais qui se concrétisent quand on les applique aux groupes réductifs finis, en disant que ces équivalences de catégories dérivées devraient être données par des cohomologies de variétés de Denis-Loustic. Donc il y a un lien avec ça. Bon, la théorie des Spetses, je pense que je n'aurai pas trop le temps d'en parler, mais juste pour dire un mot, hein, les choses étant génériques, ne dépendant que de W, pourquoi ne pas remplacer W par un groupe de réflexion complexe général et essayer de voir si l'on obtiendrait des représentations unipotentes associées ou quelque chose qui correspond. Et bon, il y a déjà eu plein de calculs faits par Brou et Malle-Michel qui montrent qu'il y a une combinatoire extrêmement amusante qui va derrière ça. Voilà. Donc ça, c'est le pourquoi. Et le comment, mais c'est le titre de l'exposé, on veut faire agir le groupe de tresse. Donc faire agir le groupe de tresse sur la cohomologie des variétés de deux lignes Loustic. Alors comment on va s'y prendre? Donc un point important, c'est qu'il va agir sur la cohomologie, mais pas sur les variétés. Et je vais donner deux exemples, d'accord? Deux petits exemples, et qu'il faudra essayer d'interpoler. Ah oui, alors, pour faire agir le groupe de tresse, il faut que je le redéfinisse, d'accord? Donc les notations qui sont ici sont les notations que j'ai déjà utilisées, d'accord? Et on va introduire des nouvelles notations, à savoir noter le groupe de tresse. Donc le groupe de tresse, une présentation que vous avez peut-être souvent vue, c'est de prendre les relations qui définissent un groupe de Coxeter et d'enlever les relations quadratiques, et vous pouvez donner une présentation équivalente de cette façon-là. Vous pouvez dire que c'est le groupe engendré par des symboles indexés par W, et tel que vous avez le droit de les multiplier quand les longueurs s'ajoutent. Mais sinon, dans le cas en général, vous n'avez pas le droit de les multiplier. Alors, vous pouvez définir le monoïde de tresse, hein, qui est le monoïde engendré par ces symboles-là. Vous pouvez définir, il y a évidemment une application naturelle qui va du groupe de tresse vers W, qui oublie le soulignage, tout simplement. Et vous avez aussi une fonction longueur qui est définie. Alors, la fonction longueur ici, sur le groupe de tresse, vu les relations que l'on a prises, eh bien, ça devient un morphisme de groupe, alors qu'évidemment, ce n'était pas un morphisme de groupe du tout pour W. Ici, sur le groupe de tresse, ça devient un morphisme de groupe. Bon, voilà, ça, c'est les notations pour B. Et je vais repartir avec mes g-orbites dans B-B. Il y a un résultat aussi extrêmement classique qui dit que si vous faites le produit fibré de l'orbite O de X avec O de Y au-dessus de B, alors produit fibré, ça veut dire ici, pour O2X, je prends la deuxième projection. Ici, je prends la première projection. Et je récupère en fait l'orbite de XY. Ça dit juste que quand les longueurs s'ajoutent, si j'ai deux Borel en position XY, il y en a un et un seul qui est au milieu, qui est en position X avec le premier, en position Y avec le deuxième. Ce résultat dit juste ça. Il dit juste ça, mais il y a un théorème de Deligne qui vous dit qu'une fois que vous avez ces relations qui sont satisfaites, qui ressemblent aux relations du groupe de tresse, mais en fait vous pouvez définir un objet O de C associé à chaque élément du monoïde de tresse. Comment vous faites? Eh bien, si C, vous l'écrivez W1, WR souligné, un produit de générateur, vous faites le produit fibré fini O de W1, croix, etc., croix O de WR, que vous pouvez voir comme l'ensemble des R plus 1 uplet de Borel qui sont en position successive W1, W2 jusqu'à WR, tout simplement. Donc vous pouvez le définir ainsi, mais le théorème de Deligne vous dit que ça ne dépend pas de la façon dont vous écrivez C, et ça n'en dépend vraiment pas. D'accord ? C'est-à-dire que si vous décomposez votre élément C de vraiment diverses façons et que vous écrivez les isomorphismes que vous obtenez, à la fin, vous pouvez prendre le chemin que vous voulez, vous obtiendrez toujours le même isomorphisme. Donc la variété est vraiment bien définie. Je ne sais pas si Michel est d'accord, je crois que c'est une sorte de résultat de simple connexité sur le complexe de Coxeter ou un truc de ce style-là. Voilà. Okay. Voilà, donc on peut définir une variété vraiment associée à chaque élément du monoïde de tresse. Et comme on a une variété associée à chaque élément du monoïde de tresse, on peut définir une variété de Deligne oustique, le produit fibré, donc là c'est pour le morphisme de B vers B croix B qui est donné par le graphe du Frobenius, et par JC qui est la projection qui envoie B1 sur BR plus 1. Si vous voulez juste un peu plus concrètement, hein, X de C, vous prenez les mêmes objets ici, vous mettez les mêmes conditions, mais vous rajoutez que le dernier, c'est l'image par le Frobenius du premier, tout simplement. D'accord ? Vous perdez l'action de G, mais vous conservez l'action de GF. Voilà, et donc c'est ce groupe-là qu'on veut faire agir sur la cohomologie des variétés de l'oustique. Je vais expliquer un petit peu comment, mais je veux juste deux exemples. Oui, c'est en fait plus précisément, donc le but, donc, c'est faire agir le centralisateur dans B de C sur la cohomologie de la variété de Deligne loustique associée à C. Donc B n'agit pas en entier, c'est le centralisateur de C qui agit, tout simplement. Et je vais donner deux exemples de ce genre d'action en répétant quand même que ce groupe-là n'agit pas sur la variété. Hein. C'est ça qui est intéressant, je pense, dans cette construction. Alors, deux exemples. Un premier exemple, c'est de prendre l'exemple 1, donc c'est de prendre le cas C est égal à 1. Le cas C est égal à 1, la variété X de 1, c'est juste les Borel F stables. Vous récupérez, c'est juste un ensemble fini, donc vous récupérez comme cohomologie, vous récupérez le module de permutation sur l'ensemble des Borel F stables. Et vous pouvez associer à chaque élément du groupe de Weyl, vous pouvez associer un endomorphisme TW qui envoie un Borel B, donc un Borel F stable, sur une constante que je ne précise pas, et d'ailleurs il y a plusieurs conventions possibles, fois la somme pour tous les couples de Borel B', sur tous les Borel B', tels que B'B est en position W et son F stable, des éléments B'. Il est facile de voir que ceci définit bien un endomorphisme de ce module-là pour l'action, sa commute avec l'action de GF. Et c'est bien connu que l'algèbre d'endomorphisme de ce module de permutation est engendré comme espace vectoriel par les TW, et qu'en plus ces TW vérifient la relation que TXY est égal à TX fois TY lorsque les longueurs s'ajoutent. Ça découle juste du résultat précédent, là, le fait que OX, produit fibré au-dessus de B avec O de Y, est égal à O de XY. Donc vous avez ici une algèbre, d'accord, une algèbre qui est une déformation de l'algèbre de groupe, mais la multiplication reste valide lorsque les longueurs s'ajoutent. Et donc, une fois que vous avez ces endomorphismes, ça vous donne une action de B, qui est le centralisateur de 1, on est dans le cas 1 ici, ça vous donne une action de B sur ce module de permutation. Et vous voyez bien que c'est juste une action sur le module, c'est pas une action sur la variété, il n'y a pas d'action du groupe de tresse sur la variété BS, il y a juste une action sur le module. Il y a la formule qui le donne ici, d'accord, n'est pas une formule définie comme une action. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Donc l'exemple 1 c'est pour C égale 1, l'exemple 2 ça ne sera pas pour C égale 2, hein, ça sera pour le cas d'un élément W qui peut s'écrire de la façon suivante, XY ou YX, lorsque les longueurs s'ajoutent. Donc l'égalité que vous avez là, c'est une égalité qui se relève en une égalité dans le groupe de tresse. D'accord ? Donc si vous voulez souligner ici, vous avez deux éléments X et Y soulignés qui commutent dans le groupe de tresse. Donc je fais cette hypothèse-là. Donc c'est un exemple dû à Bruy-Michel. Et juste pour reprendre la construction de deux lignes précédemment. X de W, donc c'est l'ensemble des borels qui sont en position W avec leur image par le Frobenius. Mais je peux, en vertu du résultat de deux lignes, la décomposer en deux morceaux, en introduisant le borel B' qui se trouve au milieu, d'accord, et qui est défini de manière unique. Dans ce couple BB', les conditions qui sont là définissent B' en fonction de B de manière unique. Mais je l'introduis quand même, parce que ça me permet de définir donc une variété X de XY, et je peux ainsi définir un opérateur dx qui m'envoie le couple BB' par un opérateur qui fait tourner les choses en rajoutant le Frobenius, donc B' f de B. D'accord ? Donc ça me fait un opérateur qui agit sur la variété, puisque x de yx, c'est aussi x de w. Et vous avez cette propriété qui vous dit que dy fois dx, ça fait dw. Et dw, si vous regardez bien, c'est juste le Frobenius, tout simplement. D'accord ? Si vous décomposez w en w fois 1, d'accord ? Le b' qui est ici, c'est juste l'image de b par le Frobenius. Donc ici, vous avez une opération qui consiste à décomposer en deux, disons, la variété x de w, appliquer ce θ-là et retomber sur ses pattes en antidécomposant y et x. D'accord ? Et vous obtenez ici une action sur la variété. Et du coup, ça vous fait agir évidemment sur la cohomologie de la variété de deux lignes oustiques. Vous avez un endomorphisme propre de la variété. Il est propre parce que sa composition avec un autre, c'est le Frobenius. Et vous récupérez donc un endomorphisme de la cohomologie à support compact. Donc dans ce cas-là, vous récupérez une action sur la cohomologie parce que l'élément agissait sur la variété. Donc ce sont deux cas, on va dire, extrêmes. Un cas où ça n'agit pas du tout sur la variété, un cas où ça agit sur la variété. Et je vais proposer donc, c'est que l'on a construit une action qui interpole ces deux cas-là, tout simplement. D'accord ? Voilà. Donc ça, ce sont les deux exemples qui. C'est B' f de B. Oui, c'est B', c'est vraiment B' f de B. Parce que B' et f de B seront en position Y, et ensuite f de B, f de B' seront en position f de X, c'est-à-dire X. D'accord ? Et ça te donnait vraiment un élément de la variété x de yx. OK ? Oui ? OK. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et si d'ailleurs, si tu fais θ carré, c'est le Frobenius, tout simplement. OK. Bien. OK. Bon. Eh bien, je vais repasser au tableau. Je vais juste rappeler toutes les notations ici. Elles seront juste pour qu'elles soient lisibles pendant l'exposé. Bien. Alors comment on va procéder ? Donc partie 2, donc c'est l'action de CB de C. C'est qu'on va écrire la cohomologie des variétés de deux lignes oustiques d'une façon un peu à peine plus savante. C'est qu'on va partir de la catégorie dérivée des faisceaux constructibles sur B, G équivariant sur B croix B. On va aller sur les. Je vais écrire DB de KGF, la catégorie dérivée des KGF modules. Sachant qu'on est dans le mode semi-simple, je vais identifier ça un peu abruptement avec les modules gradués. Avec les modules gradués sur KGF. Et quel est le foncteur ? Si j'ai un complexe de faisceaux sur B croix B, je le restreins au graphe du Frobenius, enfin je le restreins sur B à travers le graphe du Frobenius, et je lui applique la cohomologie à support compact, et la cohomologie à support compact, je vais l'appeler PB, exclamation, ou PB, c'est juste le morphisme de B vers le point, tout simplement. Voilà, donc c'est un foncteur qu'on appelle ici, qu'on va noter ici, NF. Et quel est le rapport avec la cohomologie des variétés de deux lignes oustiques ? C'est que on peut définir un élément delta de C, qui est le JB exclamation, JC exclamation du faisceau constant sur la variété O de C qui est au-dessus. D'accord ? Vous avez un morphisme JC vers B croix B, vous récupérez un complexe de faisceaux sur B croix B, et si vous calculez, alors je peux faire aussi la l'image directe normale. Okay. Donc je récupère deux complexes. Et si vous calculez, donc ça c'est pour C dans B+, C dans le monoïde. Et si vous calculez un def de delta de C, il est facile de voir avec un petit changement de base propre que ça, c'est tout simplement la cohomologie à support compact de la variété X de C. Donc j'ai juste réécrit la cohomologie à support compact d'une variété de linéostique comme l'image par un def d'un faisceau, qui est le faisceau juste constant et étendu par zéro sur O de C, tout simplement. Bien, et une fois que l'on a fait ça, en fait, il y a une propriété formelle de ce functeur ndef qui, pour s'énoncer, eh bien, avant de l'énoncer, il faut que je définisse quelque chose. Il faut que je définisse une structure tensorielle sur cette catégorie. Et en fait, la structure tensorielle, lorsque l'on a des produits de variété, la définition standard, c'est de prendre comme produit tensoriel de, je vais noter avec un rond et un point, donc de C avec D, c'est le P1-3 exclamation du P1-2 étoile de C tensoriel, le P2-3 étoile de D. Donc c'est une sorte de catégorification de la multiplication des matrices, tout simplement, lorsqu'on a des ensembles finis. Donc ceci, ça définit une structure monoïdale sur cette catégorie-là. Et NF vérifie la propriété suivante. Vérifie que ça ne transforme pas un produit tensoriel en le produit tensoriel opposé, d'accord ? Mais il y a une petite torsion par le Frobenius qui apparaît. Alors, disons que vu l'heure, je ne vais pas détailler la preuve. La preuve n'est pas extrêmement compliquée, en fait. C'est vraiment juste vous voyez que vous devez appliquer des IF étoile à un P1-3 exclamation. Donc vous faites juste un petit changement de base propre. Vous utilisez la distributivité de l'image inverse sur le produit tensoriel. Et à un moment, quand même, un point important, c'est que vous utilisez l'adjonction, puisque θ, c'est un isomorphisme une équivalence de si θ, vous avez un isomorphisme d'adjonction ici, entre le functeur identité là-dessus et θ exclamation fois θ étoile. Donc c'est un point qui intervient à un moment dans la preuve de ce résultat-là. Bien, ben continuons. Donc je reviens, donc ça c'est un résultat qui est général pour tous les complexes, et je reviens donc à mes exemples qui m'intéressent, puisque j'ai envie de faire agir des choses sur la cohomologie des variétés de linéostique. Un premier point, c'est que un fait important, c'est que si vous calculez nabla de C, point delta de C, en fait, vous obtenez l'objet unité pour cette structure monoïdale. Vous obtenez l'objet unité pour cette structure monoïdale. Donc ça, c'est un résultat classique, c'est un petit calcul assez amusant dans P1, puisque vous vous ramenez assez facilement à SL2. C'est plutôt surprenant, mais en fait, mais ça marche. Et ça vous dit en particulier que les éléments delta de C, qui sont définis pour des éléments du monoïde de tresse, admettent un inverse. D'accord ? Et donc, si vous pouvez inverser les éléments du monoïde de tresse, en fait, vous allez pouvoir étendre la définition de delta à tout élément du groupe de tresse. Donc, et ça invoque encore le théorème de Deligne, qui vous dit qu'on peut définir un objet bien défini, pas simplement pour les éléments du monoïde, mais pour les éléments de tout le groupe de tresse. Et que ces objets-là vont vérifier la propriété suivante, c'est que delta de C, point delta de B point delta de C est égal, ou je vais être plutôt isomorphe, à delta de BC. Pour les éléments du monoïde de Tresse, c'est quasiment tautologique. Et le passage là, ça résulte du théorème de Deligne. Donc vous avez cette relation, si vous préférez, c'est comme si vous aviez un foncteur monoïdal entre la catégorie monoïdale associée au groupe de Tresse, la catégorie dont les objets, c'est juste les éléments du groupe de Tresse, et les morphismes, il y a juste l'identité, hein, donc une catégorie très ultra naïve, vers la catégorie monoïdale qui est ici. Bon, mais maintenant, allons-y. Hein. Je pars de ma cohomologie de variétés de Deligne oustique, du moins lorsque C c'est un élément du monoïde, ça c'est la cohomologie des variétés de Deligne oustique. Lorsque ça n'est pas un élément, mais c'est autre chose, mais c'est pas très grave, c'est juste autre chose. Okay. Ça, si je me donne un élément B, c'est isomorphe à un def de delta de C B-1 fois B. B est n'importe quel autre élément du groupe de Tresse, j'ai gagné en souplesse. Je récupère un isomorphisme avec un def de delta de CB-1 point delta de B. Ok. Maintenant, j'applique la proposition. Un def de delta de B de F étoile de delta de B point delta de CB-1. F étoile, comme F agit trivialement sur le groupe de Weyl, il agit trivialement sur le groupe de Tresse. Le F étoile ici, c'est isomorphe à delta de B. Et donc ça, je récupère que c'est isomorphe à l'indef de delta de B, C, B-1. Ben non, justement, c'est ça qui est bien. c'est que ça, maintenant, ça devient vrai tout le temps. Voilà. Oui. Oui, là, il n'y a plus cette hypothèse-là. Et cet isomorphisme-là, je l'appelle alpha C de B. Voilà. Je construis... Alors, une vraie action du groupe de Tresse sur les variétés, ça n'existe pas. Donc, je récupère ici un élément comme ça. Et le point important, c'est que, par exemple, si B commute avec C, je récupère un automorphisme de ndf de delta de C. Mais... l'intérêt, c'est qu'à travers tout ce truc-là, je n'ai pas fait quelque chose de trivial. Je ne récupère pas l'identité, d'accord ? Voilà, donc théorème. Alors, BBDMR, hein, c'est les 5 auteurs de la première page. Donc, je vais noter AND. L'objet AND, c'est la somme directe pour tous les éléments dans le groupe de Tresse des NF de delta de C. Je mets toutes les cohomologies de variétés de Deligne oustique ensemble. Je récupère une application qui est un élément du groupe de Tresse, m'associe un automorphisme de cette somme directe. Un élément petit b va envoyer la composante ndf de delta de C sur la composante ndf de delta de BC B-1, tout simplement. Hein. Voilà, je mets tout le monde ensemble. Et le théorème, c'est que ce truc-là est un morphisme de groupe. C'est un théorème qui est à la fois... qui ne contient pas beaucoup de substance, mais qui est extrêmement désagréable à démontrer, parce que vous voyez que tout est obtenu par des suites de soi-disant isomorphismes canoniques, mais qui font intervenir des théorèmes de changement de base propre, de l'adjonction, de la formule de projection, etc. Et vous devez en plus, lorsque vous voulez montrer que c'est un morphisme de groupe, faire ça deux fois avec un delta de B, un delta de B'. Et ça vous oblige à utiliser l'associativité du produit tensoriel. Ici, l'associativité du produit tensoriel, elle n'est pas gratuite totalement quand même. Donc voilà. Donc à la fin, vous avez des diagrammes absolument monstrueux qui sont tous vides. C'est-à-dire que vraiment, chaque case montrer la commutativité, c'est facile. Sauf que écrire le diagramme, c'est juste abominable. Par exemple, enfin, juste un truc amusant, hein, il y a un cas de ces diagrammes où juste un sixième de ce diagramme, ça m'a pris deux feuilles à un, d'accord, bien collé. Deux feuilles à deux, pardon, collé, recollé. Voilà. Bon, bref, c'est à la fois pénible et à la fois pas extrêmement difficile. Voilà, donc on récupère un morphisme de groupe. Et donc le corollaire, Le corollaire, c'est que le centralisateur dans B de C agit sur ndef de delta de C. Et lorsque C est un élément du monoïde, ça veut bien dire qu'il agit sur la cohomologie de la variété de deux lignes logistiques correspondantes. Et l'action est non triviale. D'accord ? Alors, quelques propriétés de cette action. Hein, quelques propriétés de cette action. Mais la première, c'est que ça interpole les deux cas que j'avais présentés. À la fois le cas, algébrique, standard, l'action sur... L'action ici, dans le cas petit c est égal à 1. Donc ça, c'est pas si facile que ça, finalement, à démontrer. Il faut utiliser la compatibilité, donc ça c'est un autre résultat, la compatibilité de cette action avec l'induction de deux lignes loustiques, pour se ramener à un calcul dans SL2, et le calcul dans SL2, même le calcul dans SL2 n'est pas totalement gratuit. Mais il n'empêche que c'est vrai. Donc ça interpole ce cas-là. Et le fait que ça interpole Bruy-Michel, en fait, ça c'est plutôt plus facile, parce que en fait, la preuve de la proposition qui est ici, elle revient à casser en deux, appliquer l'adjonction par θ, appliquer θ et retomber sur ses pattes, ce qui est exactement ce que Bruy et Michel ont fait. D'accord ? Donc il vous faut juste traduire dans un langage ou dans l'autre les choses, et donc montrer que cette construction-là contient comme cas particulier la construction de Bruy et Michel, c'est plutôt plus facile. Le cas C égale 1, lui, est plutôt compliqué. Bon, voilà, donc ça c'est une construction de l'action, et on a donc quelques propriétés de cette... il ne veut pas me reconnaître. Bon, ça y est. Ok. Voilà, donc on a construit une action, et cette action satisfait déjà aux propriétés, déjà qu'elle est non triviale, ça c'est quand même un point important. Elle est non triviale et elle interpole des cas connus, donc c'est vraiment c'est une généralisation vraiment raisonnable. Alors évidemment, il y a des questions assez naturelles qui se posent immédiatement. Et la première, c'est que donc on a construit un morphisme alpha C qui va du centralisateur dans B de C vers les automorphismes de la cohomologie de la variété de deux lignes loustiques. Mais si vous le linéarisez, vous obtenez un morphisme d'algèbre vers les endomorphismes gradués. De cet objet-là. Okay. Donc on obtient un morphisme naturel. Et la question qui est naturelle, c'est de savoir si ce morphisme est surjectif. D'accord ? D'accord ? C'est de savoir s'il est surjectif. Je ne pense pas qu'on puisse être optimiste au point qu'il le soit. Il n'empêche que dans tous les exemples où l'on peut faire le calcul, il y en a peu, c'est extrêmement difficile, mais dans tous les exemples où on peut faire le calcul, c'est surjectif. D'accord ? Notamment en rang 2, il y a des calculs qui ont été faits par Digne Michel Rouquier de ces objets-là. D'accord ? Et on a suffisamment d'éléments à faire agir pour séparer toutes les composantes irréductibles. D'un autre côté, ce sont des cas où les composantes irréductibles sont de multiplicité 1, le centralisateur ici, souvent, il est commutatif, on a déjà l'action du Frobenius, c'est pas extrêmement probant, d'accord ? Un truc un peu plus probant dans cette direction, c'est, j'en ai parlé au début, la conjecture de Bruy-Malle-Michel. Donc c'est le cas où C, une puissance de C, est égale à une puissance du full twist. Du tour complet. On est au Collège de France. D'accord ? Donc, il faut parler français. Donc, le tour complet, donc c'est l'élément pi qui est le carré du relevé de W0 hein, dans le groupe de Tresse. W0, c'est l'élément le plus long. Donc, si une puissance de C est égale à une puissance de pi, il y a une conjecture de Bruy-Malle-Michel qui justement prédit la surjectivité de ce morphisme-là. Ils l'ont prédit sans l'avoir. C'est-à-dire que si on interprète leur conjecture, ils espéraient qu'il y ait une action de ce truc-là sur cette cohomologie, et ils espéraient qu'elle soit surjective avec tout un tas de propriétés arithmétiques. Une première étape, c'est que l'espoir de l'existence de l'action est réalisé ici, d'accord ? Et ils pensent qu'elle est surjective. Et ça serait compatible avec tout un tas de données numériques que l'on observe lorsque l'on étudie les blocs des groupes réductifs finis. Donc c'est une conjecture qui est assez robuste. Alors les relations, c'est très intéressant, parce qu'avant d'avoir les relations, il faut connaître cet objet-là, le centralisateur. Et en ayant posé des questions, on ne connaît pas grand-chose. Donc déjà, avant d'avoir les relations, il faut avoir des générateurs, tout simplement, de ce truc-là. Et ça, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Ouais. Dans le cas Bruémal-Michel, par contre, oui, les relations sont connues. Et les générateurs sont donnés et les relations sont connues. D'accord ? Voilà. Alors, oui, alors, donc, toujours dans le cas donc Bruémal-Michel, dans le cas où, donc, une puissance de C, c'est une puissance de pi, ce truc-là devient le groupe de tresse d'un groupe de réflexion complexe. D'accord ? Donc, on peut définir pour ce groupe de réflexion complexe des algèbres, des déformations, et en effet, l'algèbre qui devrait ce truc-là devrait être justement une déformation, une algèbre de Hecke, mais associée à un groupe de réflexion complexe qui n'est plus rationnel pour le coup, enfin, c'est un vrai groupe de réflexion complexe, complexe. Voilà, voilà les algèbres de Hecke. Bien. Je commençais à presque 40, c'est ça ? Ouais. Ok. Qu'est-ce que je... Oui, bien sûr. oui, ça marche sur ZL, sauf que c'est pas sûr que ce soit pertinent de regarder la cohomologie des variétés de Delinowski de celle-là sur ZL, mais il faut regarder plutôt la cohomologie de leur revêtement, et là, ton étudiant est plutôt mieux placé que nous pour aller plus loin. Mais oui, tu as raison, les coefficients n'interviennent pas. Pas vraiment, du moins. Bon, vraiment, il ne me connaît plus. J'ai vraiment changé, là, en une heure. Ok. Bon, mais je vais terminer en parlant d'action de SL2 de Z. Pourquoi ce truc-là devrait nous permettre devrait donner une nouvelle approche pour comprendre cette action de SL2 de Z. Alors, pour ça, je vais me donner deux éléments du groupe de tresse qui commutent. Et à ce truc-là, je vais associer une fonction HBC. Alors, ouais, peut-être avant, si jamais c'est surjectif, vous voyez qu'on peut obtenir un paramétrage des composantes irréductibles de ces trucs-là, et c'est en ça que je vous disais, on peut espérer une autre façon de voir de reparamétrer les représentations unipotentes de GF. Mais bon, revenons ici. Donc on peut définir un HBC qui est une fonction centrale sur GF, qui est un petit g dans GF associé la somme pour i supérieur ou égal à 0 des moins 1 puissance i fois la trace de alpha c de b fois g, ces deux objets-là commutent, c'est un endomorphisme et l'élément g, sur la cohomologie hic de x de c. Donc ici, je récupère une fonction centrale, donc ça, une fonction centrale qui ne va faire intervenir que des caractères unipotents, donc ça, c'est un objet qui vit dans K unit de GF. D'accord ? Donc je récupère tout un tas de fonctions centrales. Et une proposition que l'on a démontrée, c'est qu'elles engendrent. Toutes ces fonctions engendrent. En
faisant varier B et C. Engendre K unib de GF.
Juste petite info, si vous faites C est égal à 1, les combinaisons linéaires que vous allez obtenir, ça, vous pouvez récupérer avec des combinaisons linéaires de ces trucs-là, en faisant C égal à 1, toutes les représentations qui sont dans la série principale, hein, puisque vous faites agir tous les endomorphismes de l'induit de BAG de la triviale. D'accord ? Donc ces fonctions engendrent. Mais ces fonctions, elles sont globalement pas assez précises pour comprendre l'action de SL2Z. On va les génériciser autant que possible. Alors on va d'abord introduire une variable petit t, t donc une indéterminée. Et je vais définir ht de b et de c, qui est quelque chose d'un peu plus précis que ce truc-là. C'est la fonction qui a un élément g dans GF, associe toujours une formule qui va ressembler avec un petit détail près. Je vais mettre un moins 1 puissance i fois t puissance, la somme sur j, t puissance j fois la trace de toujours la même chose, alpha c de b fois g, sur indef de delta de c, la ième partie. Ah oui, j'aurais dû écrire ici, pardon, excusez-moi, puisque j'ai pris un C vraiment quelconque. Le NF de delta de C, et donc c'est un module gradué, je prends la composante homogène de degré I, pardon. Hein, lorsque C est un élément du monoïde, c'est vraiment la cohomologie, sinon je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc ici je prends, pareil, la composante homogène de degré I, mais je la coupe en morceaux par les valeurs propres du Frobenius. Le Frobenius agit là-dessus. Et je prends le morceau sur lequel les valeurs propres du Frobenius ont pour module Q puissance J. Donc ici, c'est le poids de l'action du Frobenius. D'accord ? Je découpe et j'encode ça dans cet objet-là. Et ça me donne un élément qui est plus dans le qui est plus une combinaison linéaire, mais c'est une combinaison linéaire à coefficients dans les polynômes de Laurent de représentation unipotente. Donc c'est quelque chose qui est nettement plus précis que juste se donner la somme alternée. Et donc là je vais terminer en énonçant deux conjectures en donnant un exemple. Donc la première, c'est toujours la même chose, tout est générique. Et en particulier, ces trucs-là doivent l'être. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils doivent l'être ? C'est qu'il doit exister quelque chose que je vais noter avec une double barre, h bar de b et de c, qui appartient à k de t plus ou moins 1, u plus ou moins 1, combinaison linéaire de caractère unipotent, ou plutôt des objets combinatoires qui paramètrent les caractères unipotents, j'en avais parlé tout à l'heure, ces caractères unipotents sont paramétrés par un ensemble qui ne dépend pas de Q. D'accord ? Donc il devrait exister un truc comme ça, tel que, quel que soit GF de groupe de Weyl W, l'élément HT que je viens de définir juste avant, qui tient compte du poids du Frobenius de petit b et de petit c, est égal à la spécialisation de ce truc générique quand j'envoie petit u sur petit q, comme je l'avais fait tout à l'heure avec les degrés génériques. Donc en fait, quand vous calculez ce genre de truc, en fait, vous obtenez vraiment des polynômes en q et q-1. Hein, c'est ce que vous observez quand vous regardez les choses. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, la conjecture. Je terminerai ensuite par un exemple. C'est que l'application qui va de K de la somme directe pour BC est égale à CB de K de T plus ou moins 1 U plus ou moins 1 de un symbole formel qui est indexé. En gros, c'est l'espace vectoriel engendré par les paires qui commutent. Je prends un symbole formel indexé par les paires qui commutent. Je l'envoie sur les combinaisons linéaires. Les combinaisons linéaires de caractères unipotents. De caractères unipotents. Et la conjecture, c'est que ce truc-là est SL2 de Z équivariant. Il va falloir que j'explique ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire SL2 de Z équivariant ? Bon, alors, l'action de SL2 de Z là-dessus, ben, on en a parlé. Hein, déjà, elle est générique. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Comment je fais agir là-dessus ? En fait, se donner deux éléments qui commutent, se donner deux éléments qui commutent dans un groupe, c'est la même chose que se donner un morphisme de Z2 vers le groupe. C'est exactement la même chose. Et donc, se donner un morphisme de Z2 vers le groupe, sur l'ensemble des morphismes de Z2 vers le groupe, il y a une action de SL2 de Z, tout simplement. Donc l'action de SL2 de Z, elle est claire là-dessus. Mais il y a une vraie subtilité, c'est là que c'est important d'introduire des variables supplémentaires, c'est que SL2 de Z agit sur les paires d'éléments qui commutent, mais j'ai aussi ici une paire d'éléments qui commutent, T et U. Donc il faut que je fasse agir aussi SL2 de Z sur les variables T et U, qui sont ici. Si je le fais de cette façon-là, que je fais évidemment de la même manière ici, alors cette application est SL2 de Z devrait être SL2 de Z équivariante. Ok, je vais donner un exemple pour essayer quand même de vous convaincre, parce qu'évidemment, ça paraît peut-être un peu curieux, 37, ça va être chaud. Oui, elle devrait être surjective. Ça devrait découler, c'est plus ou moins, il faudrait à peine améliorer le truc qui est ici. Okay. Peut-être même qu'il faudrait prendre les corps des fractions. Hein. Peut-être que au niveau des anneaux, j'en suis pas sûr. Voilà, alors je vais prendre l'exemple du type B2. Donc le type B2, il y a 6 caractères unipotents. Il y a les 5 premiers qui sont ceux de la série principale. Je les ai notés comme ça, ne vous en fichez. Et il y a un caractère cuspidal que j'ai noté cus. Rho 1, c'est le caractère trivial. Rho d, c'est la représentation de Steinberg. Et ils sont repartis en familles. Il y a 3 familles. La bleue, où le trivial est tout seul. La jaune, c'est le Steinberg est tout seul. Et une famille avec 4 éléments dans la théorie de Lustig. Si vous calculez le H de STS et de 1, alors STS et 1, 1 c'est la variété de linoustique associée à 1, donc là on est dans le cas de la série principale, et donc il faut juste calculer les valeurs des caractères de l'algèbre de Hecke habituelle en l'élément STS. Vous le calculez et vous obtenez une formule qui est donnée ici. C'est très facile d'obtenir cette formule. Si vous la générifiez, comme vous avez une variété de dimension 0, le Frobenius, il a partout le poids 0. Il n'y a pas de variable t, alors j'ai mis un t majuscule, c'est une faute de frappe. D'accord ? La variable t n'apparaît pas, parce que le Frobenius agit sans poids. D'accord ? Donc vous n'avez que du t puissance 0. Et par contre, vous voyez bien que la formule qui est ici, elle est générique en q. Donc vous pouvez remplacer q par une variable, et ce truc-là devient une spécialisation quand petit u est égal à q, de ce truc générique H double barre de STS et de 1 qui est écrit ici. Bon, ça c'est le premier point. Alors, zut, je l'écris plutôt comme ça. Si je calcule oméga, les valeurs propres qui encodent les valeurs propres du Frobenius, donc Lustig nous dit que sur la série principale, la valeur propre est égale à 1, et le calcul qu'il fait en calculant la cohomologie de la variété de Coxeter nous dit que la racine de l'unité associée à la représentation cuspidale, c'est moins 1. D'accord ? Donc, chaque fois qu'il y aura un Frobenius qui agit, on va obtenir moins 1 fois une puissance de Q. SH, en fait, il a comme valeur propre en fait, les fonctions caractéristiques de faisceau caractère. Je l'écris ici, et les valeurs propres sont données là. En particulier, ça me dit que SH de rho ref moins rho s, c'est rho s' moins rho cus, et ce truc-là est ici. J'applique SH. Et on veut montrer que SH de STS et de 1, c'est égal à H de STS et de STS. Parce que c'est ça l'action de SH. Sur les variables qui commutent, la matrice 1, 1, 0, 1, ça envoie un couple XY sur leur couple X, XY.
D'accord ?
Ah oui, c'est un SS prime. Zut, pardon. Ah, gloops. Ouais, zut. Ok, c'est SS prime. Pardon, c'est un SS prime S. Oui, pardon. Ok. Donc l'action de SH sur un couple XY, ça envoie X sur XY. Donc il faudrait montrer cette égalité. Alors, si on calcule, si on applique SH de, à H de STS, alors SS'S et 1, il faut remplacer U par TU, c'est encore la, parce que SH agit sur les variables T et U, et il faut faire agir sur les ρf moins ρs', etc. Vous obtenez une formule qui est ici. Or, dans le... Bon, c'est un peu trop tard, mais en fait, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier, donc ça, c'est, je pense qu'il est un peu tard, il faut que je conclue. En fait, il y a, dans l'article de Digne-Michel Rouquier, il y a le calcul des cohomologies de variétés de Denis Loustic pour tous les... en type 1 rang 2, B2, G2, etc. Et vous pouvez vérifier vraiment que ce truc-là était bien égal à H de STS et de STS. C'est dommage parce que c'est un peu miraculeux comme truc, mais on obtient bien une équivariance de cette application pour SH. L'équivariance pour oméga, en fait, elle est facile. Voilà, et je vais terminer sur cet exemple. Voilà, merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.